France Inter, franceinter.com.
Service public.
Bonjour à tous, bienvenue dans Service public. Bonjour Yves.
Bonjour Isabelle.
C'est une véritable fronde à laquelle nous assistons depuis quelques mois. L'exemple, une fois de plus, que les usagers peuvent à eux seuls constituer un véritable contre-pouvoir. À Bordeaux, Lille, Toulouse, Dunkerque, dans beaucoup d'autres villes, des particuliers, des municipalités ont décidé de contester la facture d'eau que leur présentent de grands distributeurs privés. En effet, la note est parfois extrêmement salée, à se demander si ces grandes compagnies privées chargées de la distribution de l'eau n'auraient pas tendance à corser la facture. Et si finalement le service public n'était pas le meilleur garant pour une gestion saine de l'eau. Nous dépensons chaque année 11 milliards d'euros. Beaucoup de Français d'ailleurs ne comprennent pas très bien à quoi correspond cette facture d'eau qui reste indéchiffrable. Donnons juste un exemple. À Paris, par exemple, la facture a augmenté de façon significative, plus 123% depuis 1990. Alors la question est posée ce matin dans service public. Le marché de l'eau doit-il rester privé ou public? Et dans l'état actuel des choses, on peut aussi se demander qui sont les gagnants, les usagers ou les compagnies privées. Débat posé donc dans l'émission ce matin.
L'eau, ce sera sans doute l'un des enjeux des prochaines municipales en 2008. En choisissant leur maire, les Français voteront aussi pour un mode de gestion de la distribution de l'eau, soit en régie publique, soit en délégation privée. Pour l'heure, les trois quarts d'entre nous sont soumis au privé, mais de nombreuses communes, vous l'avez dit Isabelle, en reviennent. Grenoble, Nantes, Clermont-Ferrand, Strasbourg par exemple, sont revenus à la gestion publique de l'eau. Ce que Paris pourrait faire également en 2009, si l'actuelle équipe reste aux commandes. Il est vrai qu'en 10 ans, le prix de l'eau, même s'il reste inférieur à la moyenne des pays voisins, précision utile, ce prix de l'eau a augmenté de près de 40%, deux fois plus que l'inflation, et que le prix du mètre cube est plus élevé de 34% en moyenne, chiffre de l'Institut National de Recherche Agronomique, plus élevé de 34% quand la gestion de l'eau est confiée aux entreprises privées.
Voilà, et cette gestion est confiée d'ailleurs à très peu d'entreprises, on parle parfois de monopole. Beaucoup de questions nous arrivent déjà depuis ce matin au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Je vous présente nos invités pour en débattre. Marc Renaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur eau de Veolia France, Veolia qui est donc l'une des grandes sociétés, une des grandes compagnies qui distribue et qui s'occupe donc de l'exploitation de l'eau en France. Vous en représentez également la fédération. Voilà, ex-Vivendi, voilà, on va donner des précisions très pédagogiquement. Vous représentez également la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. À vos côtés, et si je précise bien géographiquement, face à vous, Jean-Luc Touly, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Association pour le Contrat Mondial de l'Eau France. Alors vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes également membre de l'association Anticor, si mes souvenirs sont bons, une association qui avait été montée par Eric Alphen pour lutter contre la corruption.
Absolument.
Des marchés publics. Vous êtes également membre d'Attaque. Mmh. Et surtout l'actualité, c'est que vous êtes co-auteur avec Roger Langlais d'un livre qui est un peu un pavé dans la mare, L'eau des multinationales, qui vient de sortir chez Fayard. À côté de vous, Pierre Victoria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du Cercle français de l'eau. Vous nous direz en quelques mots en quoi ça consiste. On pourrait dire qu'aujourd'hui, vous êtes une sorte d'arbitre et de modérateur dans ce débat, encore que je pense que ce n'est pas exactement ce que pense Jean-Luc Touly. Première question peut-être pour débattre. Est-ce que pour vous, l'eau est une marchandise comme les autres? Est-ce que ça, on ne devrait même pas se poser la question? Ça ne devrait pas être privé. Ça devrait forcément être du ressort du service public. Jean-Luc Touly.
Absolument, mais malheureusement, ce n'est pas le cas en France, puisque c'est quand même le modèle français qui a été développé au XIXe siècle, qui aujourd'hui est très présent en Europe, en Chine, en Amérique latine, même si beaucoup de populations se rebellent, parce qu'évidemment, derrière, ces sociétés qui sont au nombre de 2 ou 3 en France et 4 ou 5 dans le monde, mais les deux leaders sont indiscutablement Veolia et Suez Vinesse des Eaux, évidemment veulent un retour sur investissement, c'est bien compréhensible. Et effectivement, l'usager qui n'a pas beaucoup d'argent ne peut plus payer la facture. C'est pour ça que 1,5 milliard de gens n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde.
On va rester sur le problème français pour ce matin, si vous voulez bien. Sinon, ça demanderait une autre émission. Alors, comment expliquer que la plupart des communes, des collectivités se soient déchargées du service de l'eau toutes ces dernières années et qu'aujourd'hui, elles fassent marche arrière?
Tout simplement.
Qu'elles aient envie de le faire.
Pas tout simplement, mais disons qu'une des raisons, notamment dans les années 50, où ça s'est vraiment développé, cette délégation de services publics au privé, ce qu'on appelle le partenariat public-privé, c'est les systèmes de droits d'entrée qui étaient prévus dans les contrats, qui permettaient aux sociétés d'avancer de l'argent à la collectivité, qui faisait rembourser cet argent non pas par l'impôt des contribuables, mais par la facture des usagers, qui est évidemment augmentée du remboursement de ces prêts. À Toulouse, je le dis dans mon livre, M. Boudis, lorsqu'il a passé un contrat de 30 ans avec Veolia, a perçu 475 millions de francs, assorti d'un taux d'intérêt d'ailleurs de banquier, puisque la Générale des Eaux, à l'époque, avait été créée aussi par des banquiers, de 12,5% l'an non révisable et cumulable.
Vous voulez dire que les communes y ont trouvé un intérêt financier au départ ?
Ben oui, parce que cet argent, et notamment après la loi de décentralisation, ils avaient beaucoup de responsabilités, beaucoup de compétences, mais pas beaucoup d'argent. Donc évidemment, recevoir de l'argent de ces sociétés et de le faire rembourser par la facture, c'était très commode au lieu d'augmenter les impôts. Pour des élus, c'est difficile d'augmenter les impôts, c'est pas très électoral pour eux. Et donc ils ont choisi, par les propositions de ces sociétés, ce système-là. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui environ à 80% d'usagers qui sont sous la coupe de trois sociétés. La Générale des Eaux, aujourd'hui Veolia, Suez Lyonnaise des Eaux et la SOR, qui a été vendue de chez Bouygues à un fonds de pension de la BNP Paribas.
Est-ce qu'on pourrait, là encore, pour être très pédagogique, expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé récemment dans certaines villes, je pense à Lille, à Bordeaux, ces maires qui ont décidé justement de contester ces factures très, très, très élevées. Est-ce qu'on pourrait expliquer en quelques mots justement ce qui se passe ? Parce que ça dépasse bien sûr les clivages politiques. Hein, vous avez cité
Absolument.
Dominique Baudis.
C'est pas un problème
on pourrait
de gauche
parler
ou de
d'Alain
droite.
Juppé à Bordeaux.
Absolument. Alors, il faut que d'abord que les auditeurs sachent que ce n'est pas les élus eux-mêmes, ou d'autres de très rares cas, ce sont des associations locales qui sont souvent regroupés à travers la coordination des associations de consommateurs d'eau, qui ont soulevé localement ces problèmes, qui ont demandé des audits, que les élus fassent, pratiquent un audit pour y voir clair, parce que tous les rapports des chambres régionales des comptes, le haut conseil du secteur public, enfin j'en passe et des meilleurs, soulevaient ces problèmes de prix, d'opacité, etc. Et donc, les élus, à un certain moment, poussés par les associations, effectivement, ont dû rediscuter, d'abord, faire des audits et ensuite rediscuter avec ces sociétés. La Lyonnaise des Eaux a été obligée de rétrocéder 234 millions d'euros donc à la communauté urbaine de Bordeaux. Même si nous pensons qu'aujourd'hui, ces 234 millions à Bordeaux, par exemple, ne seraient pas reversés sous forme de baisse du prix de l'eau, en tout cas pas suffisamment de ce niveau-là, et plus par des travaux supplémentaires que ces sociétés pratiqueraient dans l'avenir. Ça, on est opposé à ça. Mais disons que c'est la première fois à Bordeaux, à Lille, par une autre association locale, à Lyon, et très prochainement à Paris, une association, enfin un collectif d'associations pour la remunicipalisation de l'eau Paris, donc à la fin du mois, va faire une conférence de presse justement pour demander des comptes à la municipalité actuelle, pour dire on peut baisser le prix de l'eau, et d'autre part, on peut en 2009 revenir à un système public de la gestion de l'eau à Paris.
Alors ce que vous dénoncez énormément dans ce livre, on va y revenir parce que là, ça serait trop compliqué pour l'instant, mais c'est ce système de provision, hein, de charge. Mais on va donner peut-être la réponse, le droit de réponse à Marc Renaume, là, qui boue d'impatience depuis tout à l'heure. Marc Renaume, directeur de l'eau chez Veolia.
Je vous remercie de me donner la parole. Non, je ne boue pas du tout. Je connais le discours de M. Touly, je le regrette. Parce que je pense qu'il est tellement caricatural que je vous remercie de me donner l'occasion de revenir dessus une fois de plus. Si ce n'est pas moi qui l'ai fait les autres fois, beaucoup, beaucoup se sont élevés, y compris des élus, bien entendu, et parmi pas les moins connaisseurs de la problématique de l'eau en France. Donc je pense que, d'abord, il n'y a pas de marché de l'eau en France. Tout le monde est d'accord pour dire que l'eau n'est pas une marchandise. En France, c'est la loi qui organise les services d'eau. Il n'y a qu'un service public de l'eau qui est de la responsabilité des élus locaux.
Enfin, là, vous jouez sur les mots. C'est un service public qui est délégué à des sociétés privées dans la plupart des cas.
Alors, j'y viens. Et les élus qui sont seuls responsables de ce service public de l'eau ont un choix en France. Soit de gérer en direct, c'est ce que M. Touly appelle la gestion publique, soit de déléguer une partie des opérations qui consiste à faire fonctionner le service, c'est la délégation, et c'est là que nous intervenons. Mais quand nous intervenons sous contrat, à la demande des collectivités, pour des raisons particulières, dans des formes de fonctionnement qu'ils sont également.
Non mais personne ne dit le contraire. Ce qu'on conteste, c'est cet argent dont on a du mal à vérifier l'utilisation.
Mais je ne vois pas pourquoi vous dites ça. D'abord, je note que M. Touly, commence par les années 50. Moi, je dois vous parler du présent. Il y a eu beaucoup d'évolutions législatives ces dernières décennies qui ont permis effectivement de mieux éclairer certains points qui ne l'étaient peut-être pas suffisamment auparavant. Il n'y a pas d'argent caché dans l'eau. Les comptes sont complètement transparents.
Mais en dehors de la transparence, on y reviendra, il y a quand même le problème de la cherté. Comment vous réagissez justement face à ces élus et à ces associations de consommateurs qui disent qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus cher quand c'est privé ?
Alors, je réagis très simplement. C'est très facile de comparer de facture à facture. Et quand les gens assènent des chiffres qui ont été assénés tout à l'heure, une fois de plus, de l'ordre 30% plus cher. Je comprends qu'on le dise, puisqu'on l'entend partout.
Institut national de la recherche agronomique.
Oui, mais c'est une étude...
Ce ne sont pas des farfelus. Hein.
Non, mais certainement pas. J'ai le plus grand respect pour eux également. Ce ne sont pas des farfelus, mais il faut lire leur étude en entier. Ces gens font une première considération. Après 4 à 5 années d'études de chercheurs de l'INRA, ils considèrent d'abord, ils observent qu'en France, les services qui sont délégués à des entreprises sont les services les plus compliqués, techniquement. Je vous donne deux exemples, si vous voulez. Les eaux souterraines sont généralement des eaux moins difficiles à traiter que les eaux de surface. C'est des choses que tout le monde peut comprendre. Eh bien, dans les services délégués, nous avons seulement 23% d'origine d'eau souterraine. Dans les services qui, eux, sont restés en régie, en gestion directe de la part des mairies, il y en a plus de la moitié. Pour vous donner une idée, dans les communes qui sont des communes littorales, où il y a des fluctuations de population énormes chaque année, au moment, par exemple, de l'été, il y a des problèmes techniques également importants, il y a besoin d'une réactivité très forte des équipes qui gèrent ça. Eh bien, nous avons plus de 10% des communes déléguées en France qui sont des communes littorales, là où il y a moins de 4%.
Vous avez des explications techniques, mais malgré tout, des communes qui sont revenues en régie publique constatent que les prix, on constate que les prix baissent.
Comment concrètement avez-vous réagi vous avez vu que ces communes avaient changé d'avis ?
Je suis navré d'avoir à vous contredire, là aussi avec des chiffres précis, parce que c'est un peu compliqué d'entrer dans un détail.
Non, mais concrètement, quand vous voyez qu'un maire décide de quitter le privé pour revenir au public, comment réagissez-vous ?
Eh bien, je vais vous répondre bien volontiers. D'abord, nous essayons de le convaincre du fait qu'il ferait mieux de rester en délégation. Il se peut qu'il ait, en particulier pour des raisons politiques, envie de revenir en régie. C'est arrivé. Et à ce moment-là, nous respectons son choix, puisque c'est un choix qu'il a fondamentalement...
Enfin, pour des raisons politiques, on a vu que ça concerne à la fois des villes de gauche et des villes de droite. Hein.
Absolument. Mais alors, si vous voulez parler des prix...
On a l'impression que parfois, c'est juste du bon sens. Ils se disent c'est beaucoup moins cher et c'est mieux géré par le public.
Mais ceux qui l'ont fait, ont constaté, c'est ça qui est important, ont constaté une baisse des prix.
Non, faux. Je suis désolé.
Ah ben, tout le monde le dit.
Eh ben, écoutez, moi, je vais vous donner.
On va même
leur
reverser de l'argent.
Ces dernières années, Ces dernières années, il y a 27 communes. J'en ai la liste ici, si vous voulez, qui sont revenues en régie, OK, en France.
C'est énorme.
Sur les 27 communes, sur 36 000, oui, c'est énorme, effectivement. Il y a 36 000 communes en France, il y en a 27 qui ont fait le choix de revenir en régie. Dans les 27 communes qui sont revenues en régie, il y en a 8 qui ont baissé leur prix. 8. Il y en a 19 qui ont maintenu leur prix ou qui l'ont augmenté. Ça, c'est des réalités.
Enfin, quand il s'agit de grosses villes comme Lille et Bordeaux, on peut quand même se poser la question.
Mais
on va parler de Paris maintenant.
Lille et Bordeaux ne sont pas revenus en régie.
Il se pose la question.
À propos de réalité, on va y revenir, on va vous donner la parole dans un instant, monsieur Victorien. Mais d'abord, un reportage, un témoignage, comme à Paris, effectivement. Chaque année, chaque Parisien consomme 95 mètres cubes d'eau. C'est la société d'économie mixte, la SEM Eau de Paris, service public d'ailleurs à 70%, qui vend aux deux groupes, Veolia et Lyonnaise des Eaux, l'eau qui est ensuite distribuée aux Parisiens. Sous terre, à Paris, se trouvent donc les canalisations dans des grandes galeries où s'est rendu Thomas Chauvineau en compagnie d'Anne Lestrade, présidente d'Eau de Paris, et Jean-Louis Clerville, responsable des installations parisiennes. Et pour rentrer dans les galeries, on soulève évidemment une plaque d'égout.
Vous faites attention à la descente, il y a une canalisation sous les échelons là. Ça marche. C'est bon.
Il a quel âge ce tuyau là ?
Alors celui-là, il doit. On va regarder par rapport à sa structure et son type de joint.
C'est écrit marquise dessus.
C'est de la fonte marquise, donc c'est de la très vieille fonte ça. C'est une très vieille dame qui doit dater de la fin du 19e siècle.
Et à cette époque, l'eau c'était gérée comment ? Vous le savez, Anne Lestrade ?
C'était sous forme de régie, on dirait que c'était un service municipal. Jusqu'en 85, quand Jacques Chirac a décidé de privatiser la distribution.
L'eau qui coule là, c'est une eau qui est municipale ou qu'appartient à la Lyonnaise des Eaux ou qu'appartient à Veolia, celle-là ?
Ah non, ça c'est une eau municipale, ça. C'est une eau qui a été exploitée, produite, transportée par la SEM, Eau de Paris. Donc après, cette eau a été vendue en gros au niveau des réservoirs. Et elle est distribuée par la Générale et la Lyonnaise.
On peut s'avancer un peu dans le...
Par ici. Attention à la fenêtre.
On entend un peu, ça coule là.
Oui, c'est l'eau de l'égout qui coule là. On est en communication avec les égouts de Paris ici, qui sont un peu plus bas que le niveau de galerie d'eau.
Et votre travail à vous, quand vous venez dans ces galeries, ça consiste en quoi ?
Alors aujourd'hui, nous, on a un rôle patrimonial et réseau. C'est-à-dire qu'on va regarder au niveau des canalisations si les joints ne sont pas fuyards, s'il n'y a pas des vannes qui sont mal fermées, s'il n'y a pas des corrosions excessives, ce genre de choses. Et on édite des rapports systématiques.
Alors les réparations, qui c'est qui les prend en charge quand il y en a ? C'est la mairie de Paris ou c'est la Lyonnaise ?
Non, c'est la Lyonnaise et la Générale.
D'accord.
Tous les opérateurs, pour faire simple, ce qu'on appelle les provisions pour renouvellement, c'est qu'ils bloquent des sommes pour les affecter à des travaux futurs concernant les réseaux de distribution ou d'exploitation.
Un peu comme des provisions de charge.
En gros, un peu comme des provisions de charge, c'est ça. Donc on provisionne des montants qui, des fois, sont des montants très importants pour les travaux futurs.
Donc on se bat tous les jours contre nos deux distributeurs parisiens. Par exemple, je prends l'exemple de cette conduite-là. Si on doit...
Cette vieille marquise.
Donc elle est en très bon état. Hein. Il faut quand même le savoir. Et,
Je la trouve un peu rouillée, moi.
Non, pas du tout. Absolument pas.
C'est la rouille, ça.
Non. On ne peut pas parler de rouille, là. C'est... Par contre, ce qui va être nécessaire d'être fait sur cette canalisation, c'est de changer ces joints, qui sont des joints au plomb.
Et donc ça, c'est un boulot que va faire soit Veolia, soit...
Suez. On fait du diagnostic et on essaye d'être le... avec toujours ce souci de pérennité du réseau et non pas de mettre en place sur le réseau des éléments qui sont susceptibles de ne pas être pérennes. Hein, ce qui est un petit peu le cas et ce qui se passe aujourd'hui, à mon grand âme, c'est que les réseaux sont rénovés... avec des éléments et des équipements qui ne sont pas satisfaisants pour pérenniser le réseau à l'échelle de celui que nous ont laissé nos anciens, et notamment Belgrand et le préfet Haussmann. Quoi. Et c'est un petit peu déroutant. Quoi.
Ça veut dire quoi ? On fait de la gestion à court terme aussi des canalisations,
oui,
des réparations
qu'on fait dessus ? À mon sens, c'est de la gestion à court terme. Je prends l'exemple toujours de ce joint que vous avez devant vous. Plutôt que de changer ce joint-là, le distributeur va venir mettre un joint par-dessus avec des bandes néoprènes et qui viennent serrer. Que le joint fuit ou pas, hein. Donc, en fait, cette particularité technique de réparation fait que le joint qui ne fuyait pas peut, par l'ajout d'un joint supplémentaire par-dessus, amener une fuite sur le joint en dessous. Donc ça, c'est un petit peu déroutant, quoi. Pour nous, un remplacement de joint, c'est faire sauter cette bague, c'est-à-dire la couper et la faire sauter sur le côté, déplacer la canalisation et mettre un nouveau joint à la place. C'est en aucun cas venir... mettre un joint par-dessus un autre joint.
Donc ils font au plus vite et au coût moindre toutes les réparations qu'ils doivent faire, mais comme le disait très bien M. Clerville, sans forcément avoir le souci de la pérennité des travaux réalisés.
C'est vrai que je n'avais pas vu ça. Je comprends l'interdit du casque.
Quelques marches, c'est indispensable le casque.
Voilà un reportage de Thomas Chauvineau dans les sous-sols de Paris et de très très nombreuses réactions des auditeurs sur ce sujet. Jean-Pierre de Vincennes qui voudrait qu'on lui explique, c'est pour vous ça monsieur Renaume, pourquoi Vivendi a pu acheter Universal Music grâce aux bénéfices faits sur les factures d'eau, ce qui prouve que les sociétés gagnent quand même beaucoup d'argent. Édouard de Quimper qui nous fait savoir que la Chambre régionale des comptes a dénoncé Veolia dans un rapport de 2003 pour avoir surfacturé les abonnés de Quimper à hauteur de 500 euros par abonné, sachant qu'il y a plus de 24 000 abonnés. On fait le calcul.
On va passer la parole à Pierre Victoria. Je rappelle que vous êtes une sorte d'observateur des différents mouvements, des différents acteurs de l'eau. Vous êtes directeur général du Cercle français de l'eau. Si on se met juste à hauteur d'homme, si on se pose la question du point de vue du consommateur, est-ce qu'à votre avis, l'usager est lésé sur le prix de l'eau ?
Je crois d'abord qu'il faut mettre les choses un peu en perspective. Y compris en perspective historique, c'est-à-dire que...
Moi, j'aime bien rester à hauteur d'homme, c'est
marrant. Oui, mais on va être à hauteur d'homme, on va y arriver. Mais pour être arrivé à hauteur d'homme, il faut peut-être prendre un peu de recul.
D'accord.
Ou simplement vous dire que la politique de l'eau en France, elle a en gros une quarantaine d'années. Elle date de 1964, de cette première loi, qui avait été la loi qui avait décidé de créer des bassins hydrographiques en France et de faire en sorte que sur les 6 bassins hydrographiques, ce soit les communautés des consommateurs, des usagers et des élus locaux, qui décident à la fois des priorités, qui décident des niveaux de prélèvement qu'ils allaient faire sur la facture et qui décident des niveaux de subvention qu'ils allaient donner pour faire en sorte que tout le monde ait une eau potable de qualité, que tout le monde ait la sécurité de l'eau et que tout le monde ensuite puisse dépolluer les eaux usées. La situation par rapport au prix de l'eau en France, il est lequel aujourd'hui ? Depuis les années 70, en gros, le prix a été augmenté, a été multiplié par 11. C'est-à-dire qu'on était à 0,24 euros le mètre cube en 70, on est à 2,77 aujourd'hui. Ce qui correspond en gros pendant la même période, pour avoir une référence, à l'augmentation du prix de la baguette. Sauf qu'entre-temps, les choses ont quand même beaucoup bougé. C'est-à-dire que non seulement vous avez les normes de potabilité se sont énormément accrues, c'est-à-dire que l'eau potable que vous buvez aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que vous buviez il y a 35 ans, que d'autre part, vous avez une sécurité totale des approvisionnements. On a oublié de dire, mais pendant les problèmes de sécheresse qu'on a rencontrés ces dernières années, à aucun moment donné, les gens n'ont manqué d'eau potable, ce qui veut dire aussi que la sécurité de l'approvisionnement est totale. Et surtout, on a créé quelque chose qui s'appelle le service assainissement, qui est d'ailleurs très mal nommé, qui en fait est un service de dépollution des eaux usées, qui fait qu'à un moment donné, sur votre facture d'eau, vous payez non seulement pour votre eau potable, mais vous payez aussi pour votre contribution au respect de l'environnement.
En même temps, ce soit cher, on peut le comprendre.
Non, mais ce n'est pas cher.
Non, mais le coût, on peut le comprendre, mais dans le reportage qu'on vient d'entendre, on avait l'impression que les privés ne s'occupaient pas très bien de l'entretien.
Alors, je laisserai M. Renaud répondre sur ce sujet-là. Ce que je peux dire, c'est si on regarde la situation aujourd'hui de l'eau en France, premièrement, ça correspond en gros à 1% du pouvoir d'achat des ménages. C'est-à-dire que c'était exactement la même chose il y a 35 ans. Qu'entre-temps, l'augmentation, alors que le prix, par exemple, de la consommation de l'énergie est à 2,4 et celui du téléphone de 2,8. C'est-à-dire qu'on a réussi à construire un système extrêmement sécurisé qui répond complètement, ou le plus complètement possible, aux normes européennes à un prix qui est extrêmement moyen. Et en tous les cas, au niveau européen, et si on le met en perspective européenne, le prix de l'eau en France, il est dans la moyenne européenne et plutôt dans la fourchette basse européenne. Mmh. Et donc le système français, qui est fondé sur des bassins hydrographiques avec une solidarité entre ses membres, sur la responsabilité totale des collectivités locales et sur le choix et le droit des collectivités locales de choisir leur mode de gestion, est un système qui aujourd'hui en Europe est considéré comme le plus pertinent.
Tout est bien dans le meilleur des mondes, Jean-Luc Touly.
Oui, moi je conteste beaucoup ces chiffres parce que, et je ne mets pas en cause la bonne foi de M. Victoria, qui appartient aussi à Veolia, mais quand vous voyez qu'un centre d'organismes comme le Centre d'information sur l'eau est présidé par le directeur de clientèle de Veolia, que le Cercle français de l'eau vient d'en parler, que le Conseil mondial de l'eau est présidé par quelqu'un de chez Veolia, que dans l'état-major de ces entreprises, il y a des élus de gauche et de droite, et qu'à l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est présidée par ce cher monsieur Santini, le vice-président et le président du conseil de surveillance de la Générale des Eaux, ancien directeur général de la Générale des Eaux pendant 20 ans, monsieur Paul-Louis Girardeau, vous voyez bien qu'il y a un lobbying extraordinaire. Et donc tous ces chiffres qui sont annoncés essayent de masquer, comme vous le disiez Isabelle tout à l'heure, des baisses du prix de l'eau dans les communes comme Neuchâteau, comme Cherbourg, comme Châtellerault.
Les communes qui se sont désengagées du privé,
oui,
c'est ça.
Comme une petite commune, je crois qu'il est invité Michel Partage. Donc,
nous allons l'entendre tout à l'heure.
Oui. Il y a des baisses qui vont jusqu'à 24% à Neuchâteau pour 3 fois plus d'investissement en termes de travaux d'entretien. Donc tout ça est possible, mais il faut que vous sachiez que lorsque ces communes reviennent en régie, 9 fois sur 10, ces entreprises leur font un procès justement pour décourager d'autres collectivités qui pourraient revenir
rapidement,
en régie.
Rapidement,
parce que voilà, on a des auditeurs qui ont plein de questions à poser.
Par rapport aux collectivités locales, ce que dit M. Touly est en grande partie faux. Et en grande partie faux parce que la plupart des collectivités locales aujourd'hui, lorsqu'elles arrivent en fin de contrat ou qu'elles se posent la question du système de mode de gestion. D'abord, je voudrais rappeler que en droit français, le mode de gestion naturel, c'est la régie. C'est-à-dire que vous n'avez pas à prendre de décision pour faire une régie municipale. Ça va de droit. Vous allez commencer simplement à avoir un processus de débat, y compris à l'égard de la population, que si vous choisissez la délégation de service. Donc c'est vraiment prendre la délégation de service, c'est un vrai choix d'une collectivité qui va donner lieu donc à une mise en concurrence, etc., etc. Mais si la plupart des collectivités
pas
aujourd'hui
vraiment,
font...
Pas vraiment, enfin,
si,
bon,
si, si, si,
pas vraiment concurrence.
Si, monsieur, on pourra en parler, mais depuis la loi Sapin, il y a une véritable mise en concurrence et la Cour des comptes elle-même le dit. La plupart des collectivités locales aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles font la comparaison entre la régie et la délégation. Et si on prend des exemples, on a parlé de Quimper, par exemple. À Quimper, effectivement, il y a une comparaison entre la régie et la délégation. Le maire de l'époque a choisi la délégation pour des raisons qui lui appartiennent en matière de niveau de prime et de sécurité juridique, de sécurité technique, de qualité de service. À Rennes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux études ont été faites. Et à un moment donné, l'élu et le conseil municipal prend une décision, soit le choix de la délégation, soit le choix de la régie.
Ça, on a bien compris, Pierre-Victoria, que les élus avaient le choix. Mais le problème, c'est justement cette différence.
Voilà, et on va tout de suite prendre un autre son de cloche, celui d'une habitante de Toulouse qui s'appelle Anne, qui nous écoute. Elle est également présidente d'une association de défense des usagers de l'eau. Bonjour Anne.
Bonjour à vous.
Vous nous écoutez, vous vouliez réagir.
Oui, je voudrais revenir sur quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. L'exception française d'abord. Dans notre pays, 80% de la gestion de l'eau a été privatisée Partout ailleurs, y compris aux États-Unis, ce chiffre est à peu près à 10%. Bon, c'est, ne cesse d'augmenter, mais enfin, il n'est pas très élevé. Les trois groupes français que l'on citait tout à l'heure, enfin que l'on n'a pas encore cités, mais
on les a cités au début de l'émission. Veolia,
Lyonnaise, Bouygues, pour parler de, à l'ancienne manière, hein, manière traditionnelle, se partagent 90% de cette gestion privée. 70% des activités de ces groupes se font sur des délégations de services publics. En 20 ans, ces trois groupes, au départ, qui étaient de simples groupes franco-français, sont devenus d'énormes multinationales grâce aux plus-values réalisées par ces, sur ces délégations. Donc, les 30% dont on parlait tout à l'heure, de différence entre une régie publique bien gérée et la gestion privatisée, elle est en partie là. En plus, une régie ne paie pas de taxes professionnelles, ne paie pas d'impôts sur les sociétés, ne paie pas de dividendes aux actionnaires, n'a pas l'obligation de reverser dans le budget suivant les plus-values. Donc, les 30% de différence s'expliquent très, très bien.
Vous êtes une élue?
Je ne suis pas élue, je suis présidente d'une association de défense d'usagers de l'eau, de l'assainissement et des du traitement des déchets sur Toulouse et sa région.
Bon, Marc Renaume.
Oui, merci, je vais répondre à cette dame.
Bonjour, encore une madame. Confirmation de la différence au niveau du coût. Hein.
Non, mais moi je vais juste dire une chose pour commencer, c'est qu'on fait régulièrement, vous l'imaginez, des enquêtes pour avoir une idée, et on fait faire ces enquêtes pour avoir une idée du niveau de satisfaction des gens. Alors je veux bien que tout le monde aujourd'hui soit mécontent de son service de l'eau en France, mais les plus récentes enquêtes qu'on a donnent des taux de satisfaction entre 85 et 93%.
Non, pas mécontent du service de l'eau, Marc Renaud, mécontent du... coût.
Voilà, alors, la facture des l'augmentation des factures. De 9% c'est pas de ça que en 2007.
C'est pas de ça que parlait de cette dame. Mais si vous voulez qu'on reparle du prix sur Paris, je vais
si peut-être... expliquer le pourquoi de ces 30%.
C'est son explication. D'abord, je vous le répète, je suis désolé.
Pas de taxes professionnelles, pas d'impôts sur les sociétés.
Un, les 30% sont faux. Deux, ils oscillent entre 5 et 10% à l'avantage de la régie quand on regarde seulement la facture. Deux, justement, parce qu'elle parle à juste titre des impôts, cette dame. Les délégataires payent des impôts. Les entreprises de l'eau payent des impôts, là où les régies n'en payent pas. Et si vous réincorporez, c'est pas vrai, monsieur Touly, si vous réincorporez les impôts, l'avantage bascule de l'autre côté. Les délégations, y compris l'impôt que payent les délégataires, font que le service de l'eau délégué est un petit peu moins cher que le service de l'eau en régie. Ce sont des études sérieuses. Mais je veux revenir sur le prix, si vous m'y autorisez.
Rapidement.
Parce que quand cette dame dit, avec tout ce qu'ils font à l'international, ils ont été obligés de prendre dans les bénéfices qu'ils font en France. Mais madame, c'est exactement l'inverse. Je suis désolé, vous vous trompez exactement, complètement. Aujourd'hui, qu'est-ce
Jean-Marie
qui nous
a... Messier n'a pas racheté Universal mais, avec
écoutez,
l'argent de l'eau.
Jean-Marie Messier, ça fait 10 ans. Nous n'avons plus rien à voir avec Vivendi. Moi, je représente ici les entreprises
ça
de
fait
l'eau
4
toutes.
Ans.
Non, ça fait 10 ans qu'il est arrivé.
Et qu'il ça fait 4 ans qu'il est parti.
On est d'accord, ouais. Un peu plus même. Ça, c'est le passé. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un vrai métier. Et que si, justement, des entreprises comme celle de la fédération que je représente aujourd'hui sont présentes et sont leaders des entreprises françaises à l'international, c'est parce qu'elles ont su mettre au point des technologies qui fonctionnent. Elles ont des politiques de formation de leur personnel qui sont reconnues dans le monde entier. Et que la différence, elle se fait sur des critères techniques et professionnels qui se traduisent par des prix plus intéressants. Et ce n'est pas l'inverse. Il faut raconter aux gens la réalité de ce métier.
On a beaucoup d'auditeurs. Peut-être une réponse rapide de Anne.
Oui, j'ai envie de répondre quand même à ça. Il faut rappeler quand même que Jean-Marie Messier a racheté Universal Studios en vendant énormément de choses qui appartenaient à la Générale. C'est pas par hasard que la Générale est devenue ce qu'elle est devenue. Et quand il est reparti, il a laissé quand même 14 milliards d'euros de dettes dans Vivendi Environnement, 17 milliards d'euros de dettes dans Vivendi Universal. Les provisions pour renouvellement ont disparu quelque part en Irlande. Donc, moi, j'aimerais qu'on me réponde à tout ça.
Alors, les provisions pour renouvellement, on va pas aborder le sujet maintenant.
Je voulais
parce
juste
que
répondre
on va
à cette
beaucoup
dame.
En parler après.
Voilà, on n'est pas là non plus pour faire le procès de Jean-Marie Messier. On va essayer de progresser dans notre débat.
Juste vous l'enquête juste de l'UFC Que Choisir, parce Monsieur que là, Toulis, vous avez beaucoup parlé, vous êtes deux, je suis tout seul. L'enquête de l'UFC Que Choisir, qui est la dernière enquête du mois de février 2000. 6 montre que le prix de l'eau, notamment en Île-de-France, qui est le plus gros syndicat et qui est présidé par un ensemble d'élus de gauche et de droite, mais présidé par M. Santini, vous avez un taux de marge net de 59%, record de France.
Juste sur ce point, rapidement, Marc.
Alors, sur ce point, très clairement, et je suis très, très loin d'être le seul en tant que fédération professionnelle à le dire, les plus grands élus de France se sont élevés contre le ridicule de cette étude. Et même UFC Que Choisir a été conduit à reconnaître doucement que l'étude méritait d'être améliorée.
Alors, ce qui n'est pas ridicule, ce sont les questions.
Je voudrais, je voudrais juste Paris, parce que tout à l'heure, on a entendu Anne Lestrade, qui est venue.
Nous allons la réentendre.
Qui est venue démolir le travail qui est fait par les deux entreprises qui travaillent à Paris. Je trouve ça assez bas, pour être franc, parce que je veux juste dire une chose, c'est que Paris est la ville de France qui a le meilleur rendement de réseau, justement. Parce que les distributeurs s'en occupent.
Eh ben, vous allez pouvoir lui répondre, on l'entendra dans un instant. Vous l'avez entendu, il est 10h sur France Inter. La parole également aux auditeurs après 10h avec beaucoup de questions. Des auditeurs qui nous appellent très nombreux, par exemple, pour se poser la question aussi de l'eau potable. On paye la facture Veolia alors qu'on n'a pas d'eau potable. On en parle dans un instant dans Service Public.
Le prix de l'eau n'a pas seulement payé le service de l'eau. Donc il faut revenir.
Ça a payé des actions.
Ça a payé les actions de communication délirantes de Messier quand il était à la tête de Vivendi. Ça a payé des tonnes de choses. Ça a payé autre chose que le service de l'eau.
Et ça, tout le monde le savait. Pourquoi est-ce que personne n'a jamais rien fait?
Ça, tout le monde le sait depuis très longtemps parce que c'est pas un système nouveau. Pourquoi personne ne fait rien? Parce qu'en France, il y a deux grands groupes. C'est les deux plus grandes multinationales de l'eau au monde. Ces deux multinationales contrôlent le secteur de l'eau en France en très grande partie. Et pourquoi personne ne dit rien et pourquoi il commence à y avoir quand même un début de polémique, heureusement, bah parce que le système a toujours très bien fonctionné avec plus ou moins l'adoubement des mairies, des collectivités et des responsables politiques. Voilà.
L'adoubement des mairies et responsables politiques dans le secteur de l'eau. On en parle ce matin dans le service public. Vous venez d'entendre Anne Lestrade au micro de Thomas Chauvineau. Anne Lestrade, responsable de la Société d'économie mixte des eaux de Paris, conseillère verte de Paris, conseillère du 18e arrondissement, en précisant qu'en 2009, la concession accordée à Veolia et à la Lyonnaise des eaux pour acheminer l'eau aux Parisiens arrivera à échéance et que l'actuelle équipe municipale aimerait voir ce service remunicipalisé. Pour en parler avec nous, Marc Renaume, directeur de l'eau à Veolia France, responsable administrateur et également de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, Pierre Victoria, directeur général du Cercle français de l'eau, et Jean-Luc Touly, qui vient d'écrire avec Roger Langlais « L'eau des multinationales », un livre sorti aux éditions Fayard. Marc Renaume, sur ce que vient de dire Anne Lestrade, donc on en a déjà un peu parlé, vous le contestez, l'argent de l'eau n'a pas servi à autre chose qu'à améliorer, qu'à investir dans l'eau, dans l'entretien.
Bien sûr, je ne vais pas vous reparler de Messier, c'est heureusement pour nous tous du passé. Sur le métier de l'eau, il y a quelques éléments qui sont simples. Madame Lestrade le sait d'ailleurs. Ce que représentent les entreprises lyonnaises et Veolia à Paris dans le poids de la facture d'eau aux Parisiens, c'est 17% de la facture. Okay ?
Le reste, c'est quoi ? Des taxes ?
Le reste, c'est le poids des achats d'eau, c'est-à-dire le poids de Haut-de-Paris, de Madame Lestrade, si je peux le dire.
Parce que vous distribuez l'eau, mais ce n'est pas vous qui
nous achetons l'eau. Nous achetons l'eau à Haut-de-Paris. C'est des taxes et redevances. C'est tout le poids dont parlait M. Victoria tout à l'heure de l'assainissement, qui effectivement pèse lourd, parce qu'il faut reconquérir la qualité des masses d'eau en région parisienne, et que ça nécessite des investissements lourds, qui ne sont pas faits par nous. D'ailleurs, au passage, je le signale, il y a un grand syndicat d'assainissement qui s'appelle le SIAP. Donc, il ne faut quand même pas caricaturer excessivement. Les entreprises de l'eau à Paris pèsent 17% de la facture. Deuxième point, la marge qui est affichée chaque année, expliquée, détaillée chaque année dans les rapports que nous rendons à la ville de Paris, et publiée, donc tous ceux qui le souhaitent y ont accès, elle est de 4,5%.
Oui, mais je suis obligé de vous citer Anne Lestrade. C'est elle qui le dit, la facture serait moins salée si les opérateurs privés diminuaient leur marge.
Alors, la marge est de 4,5%. Je considère aujourd'hui...
28% pour l'UFC Que Choisir.
Mais l'UFC Que Choisir ne sait pas ce dont elle parle dans ce domaine, monsieur
Touly. Ils font bien leur travail, quand même, en général, dans la plupart des domaines.
Oui, je pense que c'est une association infiniment respectable, mais que dans l'eau, elle s'est plantée. Elle s'est plantée simplement parce que l'eau, c'est un sujet compliqué. Ces comptes dont je parle, qui aboutissent à ces 4,5% de marge, sont des comptes qui sont attestés par nos commissaires aux comptes, sont des comptes qui sont audités chaque année par la ville de Paris.
On va en parler directement avec quelqu'un qui est vraiment concerné. On va en parler. On aura au téléphone un maire qui se bat justement pour meilleur service de l'eau. On va l'avoir en ligne dans un instant. L'émission, c'est aussi l'émission des auditeurs de France Inter. On va leur donner la parole. Un petit tour d'horizon rapidement. Beaucoup de gens nous posent le problème de la qualité de l'eau, puisque c'est vrai que dans cette émission, on a parlé de la cherté, du coût, du manque de transparence. On pourrait peut-être dire un mot aussi sur la qualité de l'eau, puisque plusieurs auditeurs nous parlent du taux de pesticides qui dépasse le taux admis. On a parlé aussi de l'eau qui est non potable, alors qu'elle est distribuée par Veolia. Un auditeur aussi auquel on peut répondre tout de suite, hein, puisqu'il nous dit qu'il trouve qu'il n'y a pas vraiment de contradicteur dans cette émission à Veolia. Je rappelle quand même que Jean-Luc Touly, vous êtes là justement pour dénoncer un certain nombre de pratiques. Et puis pour être tout à fait clair, on pourrait dire aussi que pendant 30 ans, vous avez travaillé chez Vivendi comme délégué CGT et vous êtes effectivement un militant actif. Est-ce que vous voulez répondre peut-être rapidement à notre auditeur qui pose des questions sur la qualité de l'eau ?
Il faut que vous sachiez aussi que vos auditeurs, que j'étais licencié au bout de 30 ans par cette entreprise, mais qui a eu l'accord du ministre de l'Emploi, et que
vous êtes l'homme qui dérange.
Je ne suis pas seul, il y a 5 autres délégués syndicaux de Force Ouvrière, un autre syndicat, qui ont subi le même sort. Et nous luttons justement, et nous faisons une centaine de débats par an, pour justement expliquer à partir de l'expérience de l'intérieur, comment ces entreprises, à travers la comptabilité notamment, ont pu se faire tant d'argent. Pour répondre sur la qualité, et puis quelques autres choses rapides, puisque j'ai eu moins la parole que les deux autres collègues de Veolia, entre guillemets, la qualité de l'eau, elle est pas si mauvaise que ça, si on la compare à l'eau en bouteille, qui est aussi contrôlée par des multinationales et qui est moins contrôlée. Mais c'est vrai que les pesticides, d'ailleurs, Veolia vient d'être condamnée par la cour d'appel de Reims suite à une action d'une association locale pour justement une eau non conforme. Donc cette qualité de l'eau, et je ne parle pas de Paris particulièrement, mais d'une manière générale, on n'a pas un contrôle très rigoureux sur les pesticides, sur les antibiotiques, sur la présence d'aluminium, sur la présence d'œstrogènes, etc. Le sexe des poissons dans la Seine a changé, il y a plus de femelles que de mâles. Bon, donc sur la qualité de l'eau, il y a des problèmes, c'est indiscutable. Il faut savoir aussi que ces groupes, la personne de Toulouse le disait tout à l'heure, sont leaders dans l'eau, dans l'assainissement, mais aussi dans les déchets, aussi dans le chauffage urbain, dans les transports. Et que ces multinationales, lorsque Vivendi ou Suez avaient la communication, contrôlaient la communication. On peut se poser pourquoi ces entreprises contrôlaient la communication. Justement pour que les choses ne sortent pas. On a parlé de Rennes. Rennes, il y a eu un audit. Mais la majorité socialiste communiste a voté 10 ans de plus un contrat qui datait de 120 ans avec la Générale des Eaux Veolia. Malgré l'attitude des Verts et d'un nombre d'associations très importantes qui disaient que l'audit montrait que la régie était moins chère. Il y a eu 3 commissions d'enquête parlementaires dans les derniers mois, demandées par les députés verts, demandées par les députés communistes et enfin demandées par les députés socialistes au mois d'avril 2006, suite à l'enquête notamment de Lucie Que Choisir, pour y voir clair dans cette gestion opaque et notamment sur la manière du prix de l'eau. La facture pour vos auditeurs est totalement illisible. Aujourd'hui, comment un usager qui paye sa facture peut comprendre ce qu'il paye? Voilà.
Jean-Luc Touly, on va justement les auditeurs et les usagers, on va essayer de les écouter un peu. C'est Jean-Pierre qui nous appelle de Rennes, justement. Jean-Pierre.
Oui, je vous écoute.
Nous vous écoutons, à notre tour.
Écoutez, moi, je voudrais vous poser la question qui fâche. Quand, en France, le domaine de l'eau sera renationalisé, parce que le prix de l'eau en France est variable de 1 à 3 environ, donc sur le plan social, c'est déjà pas très juste. Il vaut mieux pas habiter à Saint-Malo aujourd'hui, c'est l'eau la plus chère de France. Et je vais vous donner 2 exemples. Le prix de l'eau, c'est vraiment une escroquerie. Moi, j'ai ma facture d'eau. Dans le passé, quand j'habitais quelque part, on me faisait payer une caution pour mon compteur d'eau. Aujourd'hui, je paye 52,05 € par semestre, c'est-à-dire 100 € par an, de location d'un compteur d'eau qui vaut lui-même 100 €. D'accord ? Alors, imaginez au bout de 30 ou 40 ans ce qu'a rapporté ce compteur. Et une autre anecdote un peu plus amusante, je suis allé il y a quelques années à l'île franco-hollandaise de Saint-Martin, où il n'y a pas d'eau potable. Dans le sous-sol, on dessale de l'eau de mer. Moi, je voudrais qu'on m'explique, le monsieur de chez Veolia, puisque c'est une de ses filiales qui vend sur l'île de Saint-Martin l'eau désalinisée, pourquoi les Hollandais la vendent 5 fois moins cher, vous entendez bien, 5 fois moins cher la même eau de mer que l'entreprise française Sogea.
Alors, il y a beaucoup de questions, Pierre. C'est Pierre Victoria qui va vous répondre. Attendez, on va le laisser répondre, surtout que beaucoup d'auditeurs vont dans votre sens. Hein. Il y a plusieurs questions, là. Nationalisation des sociétés privées de distribution de l'eau, c'est aussi ce que nous demande Robert, en nous demandant d'ailleurs de lancer un référendum à ce sujet. Grand
Et
Dieu, nous n'avons
pas.
Pas, n'avons pas encore
on
le pouvoir de lancer
On sert aussi à ça, émission de service public, pourquoi pas.
Mireille aussi revient sur la question, Mireille de Saône-et-Loire, des abonnements. Pourquoi payer des abonnements qui ne sont pas du tout en rapport avec la consommation? Et puis, Pierre nous parlait également des écarts.
Et puis on peut ouvrir le débat puisqu'un auditeur de Grenoble nous demande est-ce qu'il serait farfelu d'imaginer un groupe unique de l'eau à l'image de EDF, ce que EDF fait pour l'électricité. Alors qui veut répondre?
Alors Pierre Victoria
ou Marc?
Je veux dire en tous les cas, la position du CERF français de l'eau sur le problème de la nationalisation de l'eau, c'est de considérer que c'est une très mauvaise idée. Alors c'est une très mauvaise idée, pourquoi? Pour des raisons d'abord, je dirais, de nature démocratique, c'est-à-dire que le fait que les collectivités locales, les communes, les 36 000 communes, qui en fait sont regroupées en 15 000 services d'eau, en 15 000 services d'assainissement, c'est une liberté fondamentale pour elles que de pouvoir choisir la façon dont elles vont gérer localement le problème de l'eau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que...
L'eau est un bien commun.
L'eau est un bien commun, mais sa gestion, le problème, c'est que l'eau ne se transporte pas, monsieur, contrairement à l'électricité. Et donc, la façon dont vous allez gérer votre eau localement dépend complètement des éléments de nature physique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une nappe souterraine, est-ce que vous avez une nappe, des nappes profondes, quel type d'activité humaine vous avez qui éventuellement vont consommer ou polluer l'ensemble de cette ressource. Donc, faire une politique locale dans le domaine de l'eau, c'est non seulement répondre à des problématiques de priorité locale, mais aussi faire un outil qui permet de coopérer entre les différents usagers pour faire en sorte que cette relation entre l'environnement et les activités humaines soit la meilleure
possible. Mais comment expliquer écarts de prix? Alors, par exemple, un autre message nous arrive d'Aurillac. Céline nous dit, il existe des communautés d'agglomération. J'habite dans celle du bassin, elle a une amie qui habite juste à côté de chez elle et qui paye 6 fois moins cher l'eau.
Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la dispersion des prix en France est de 2,6, c'est-à-dire qu'elle est bien inférieure à celle qu'elle est dans les autres pays européens. D'accord ?
Oui, mais en même temps, pour l'usager, quand
même. La deuxième chose que je... La deuxième chose que je voudrais dire...
Peu importe les chiffres, il y a une grosse différence.
Il y a une grosse disparité.
Et parfois dans la même agglomération.
Aujourd'hui, il y a une grande harmonisation des prix au niveau des territoires que sont les communautés d'agglomération. Parce que du fait de la poussée de l'intercommunalité, aujourd'hui, 64% des services d'eau sont au niveau des agglomérations sur lesquelles vous avez une uniformité des prix au niveau des agglomérations. Donc on va au niveau de ces territoires, une uniformité des prix sur un territoire donné, et sachant que ce prix, il est effectivement fonction des conditions locales dans lesquelles se fait.
On va vous demander, si possible, parce que l'émission ne dure malheureusement pas si longtemps que ça, on va vous demander de répondre peut-être plus brièvement aux questions. On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. On va prendre Lucien.
D'abord la troisième question, par chronome peut-être. Pourquoi paie-t-on un abonnement quelle que soit notre consommation?
Vous savez, dans le métier de l'eau, très simple, comme dans celui de l'assainissement d'ailleurs, il y a 90% de charges fixes. Ça veut dire que, quelles que soient les consommations, vous avez 90% de vos dépenses qui sont assurées avant d'avoir, entre guillemets, livré un mètre cube d'eau. Deuxièmement, la rémunération des entreprises de l'eau comme des régies est l'inverse de ça. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez dans les métiers du service public de l'eau en France 20% de recettes, un peu moins, qui sont des recettes fixes, l'abonnement, et vous avez 80% qui sont des recettes proportionnelles. Vous voyez l'effet de ciseaux que ça peut
représenter. Parlez concret, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, je n'ai pas eu la parole là-dessus. Sur l'abonnement, l'abonnement correspond à la location et entretien du compteur. La seule chose qui appartient à ces sociétés privées, bizarrement, c'est le compteur. C'est ce qui coûte le moins cher. Ils vous font payer une location pendant 14 ans. Attendez, laissez-moi terminer. Pendant 14 ans, et ils vous changent le compteur en moyenne tous les 25 ans. Donc déjà, il y a un problème.
Mais
le gros problème, c'est est-ce que déjà un auditeur qui paye une facture d'eau...
Un usager,
est-ce qu'il y a déjà vu quelqu'un, un salarié de Veolia ou de Suez, venir entretenir son compteur? Alors qu'est-ce qu'on paye à travers l'entretien des compteurs qui est facturé dans l'abonnement des factures?
On va prendre Lucien en ligne. Bonjour Lucien, vous nous écoutez, vous vouliez réagir?
Oui, bonjour.
Une réaction ou une question peut-être?
Bon, disons que j'étais une petite expérience. J'ai participé en tant qu'usager à une commission consultative des services publics là, sur la commune de Libourne où je réside, et j'avais exprimé effectivement mon interrogation par rapport à une augmentation que j'avais chiffrée à 47% de 2000 à 2005. Donc, à l'heure actuelle où le débat sur le pouvoir d'achat quand même commence à prendre à l'ampleur, je considérais qu'une telle augmentation était quand même sensiblement exagérée. Bon, deux explications. On a réparti l'augmentation à moitié pour financer, soi-disant, le remplacement des branchements plomb. Et on a l'autre moitié pour rééquilibrer le contrat initial parce que le volume d'eau vendue était en diminution. Il fallait revoir ce contrat. Donc, c'est pas des explications qui peuvent satisfaire l'usager. Moi, ce que je voulais dire, c'est attirer l'attention aujourd'hui des usagers, faire état de la loi Sapin qui oblige une renégociation des contrats. On a l'exemple de Bordeaux, puisque quelques jours après mon expérience en commission, j'avais quand même l'expérience de Bordeaux dans Sud-Ouest et de notre syndicat de communes de Guîtres qui croisait le fer avec la Lyonnaise des Eaux, puisqu'en l'occurrence c'était la Lyonnaise des Eaux, qui leur demandait de revoir le contenu des contrats. J'ai entendu effectivement que 230 millions devaient être réinjectés par la Lyonnaise au niveau de la communauté urbaine de Bordeaux. C'est un point positif, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit intervenir en tant qu'usager et faire pression auprès des élus, parce que la pression des groupes que vous avez cités et qui sont représentés dans votre émission est forte par rapport aux élus lors de la renégociation des contrats. Alors, on l'a vu, les petites entreprises ont du mal, dans le cadre des appels d'offres, à faire état de leurs propositions.
Merci, bon. Lucien. Voilà. C'est vrai qu'on aura compris que le rôle dans ce cas-là, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, le rôle des associations de consommateurs est fondamental et effectivement, il faut le rappeler.
Et aux élus, peut-être maintenant, de prendre leurs responsabilités, comme nous l'a répété plusieurs fois Pierre-Victorien. Un élu, justement, en ligne avec nous, c'est Michel Partage, maire de Varages dans le 83. C'est où ça, d'ailleurs, le 83?
C'est le sud de la France.
Le Var.
Le Var, voilà.
Bonjour, Michel Partage. Votre commune est revenue en régie communale car la gestion privée ne donnait pas satisfaction.
Oui, nous sommes une commune rurale de 1000 habitants et nous étions face à une caricature depuis 10 ans pratiquement, une caricature de ce que peut être le service privé lorsqu'il est pratiquement abandonné et il n'y a plus que les profits qui sont intéressants et pas le service et surtout la qualité de ce service. Donc il y a une...
C'est vrai que c'est un bon exemple votre ville parce que vous avez connu d'abord le public, ensuite le privé et vous êtes revenu au public.
Oui.
Expliquez-nous alors, qu'est-ce qui clochait? Qu'est-ce qui n'allait pas?
Le problème, c'est que, comme c'est basé sur des profits, une société privée, c'est tout à fait normal, ils vont essayer de réduire l'entretien, ils vont essayer de réduire le personnel. Donc nous avions une personne qui gérait à peu près une dizaine de communes. Nous sommes dans le monde rural. Cette personne-là venait, donc quand il y avait une fuite ou quand il fallait une urgence, il y avait entre 24 heures et 48 heures et on a eu jusqu'à 3 semaines d'attente sur l'assainissement, par exemple, une fuite d'assainissement. Donc, manque de personnel. Ensuite, on s'est aperçu que l'eau ne pouvait pratiquement plus être buvable. C'était une eau de vieille piscine, vraiment mauvaise.
Elle était très chlorée, non? Il mettait beaucoup de chlore?
Il mettait énormément de chlore et donc on s'est dit, il va falloir, quand on va remunicipaliser, il va falloir faire des investissements. Pas du tout. On s'est aperçu quand on a remunicipalisé, qu'on a pu avoir enfin les clés de tout ce qui se passait et de comprendre, on s'est aperçu qu'ils étaient en vidéosurveillance et qu'ils mettaient le maximum de chlore dans les canalisations légales. Mais au maximum, sans regarder s'il y avait des bactéries, pas des bactéries, s'il y en avait besoin de moins ou quoi que ce soit. Ils mettaient le maximum, ce qui fait qu'en vidéosurveillance à 50 km, ils pouvaient gérer toutes les communes.
Alors aujourd'hui, Michel Partage, les revenus de l'eau engendrés par la gestion publique ont permis la création de 3 emplois, c'est ça?
Sur la commune.
Ouais. 7 jours sur 7, un service de proximité meilleur et une baisse des prix.
Oui, alors. Nous sommes partis du principe que les sociétés privées nous présentaient systématiquement... Bon, nous avons été élus là-dessus, hein, c'était le programme principal. Hein, l'axe principal du programme des élections municipales était sur la remunicipalisation de l'eau, puisque le contrat finissait en 2002, c'est-à-dire un an après l'élection du conseil municipal. Donc nous sommes partis du principe que chaque année, ils nous donnaient un bilan déficitaire. Et ils demandaient 100% d'augmentation pour pouvoir continuer à renégocier le contrat. Donc nous avons dit qu'on n'était pas là pour faire perdre de l'argent aux sociétés, puisque chaque année ils nous donnaient des déficits et ils nous présentaient des déficits, ben il fallait mieux qu'on arrête le contrat pour leur faire gagner de l'argent. Et on s'est aperçu qu'on n'a pas eu besoin d'augmenter de 100%, qu'on a créé 3 emplois là où il y avait une personne pour 10 communes, et en plus le goût de l'eau est revenu, enfin un vrai goût, c'est-à-dire l'eau qui coule de la source et qui est traitée, il faut la traiter, mais qui est traitée en rapport, il y a quelqu'un qui passe, il y a un vrai service public, c'est-à-dire tous les jours, il y a quelqu'un qui passe, qui règle et qui met en rapport de ce qu'il y a.
Voilà un exemple qui est clair. Hein. Là, pour le coup, ce ne sont pas des chiffres que l'on peut contester. Monsieur Veolia pourrait répondre. Voilà, c'est très, très clair. Veolia. Juste une dernière question quand même, parce que je trouve que cette expérience était quand même assez incroyable. Est-ce qu'il a été difficile pour vous de revenir au service public?
Vous savez, le fait de revenir en service public, et maintenant je rencontre énormément de maires parce qu'on essaye de faire passer ce message, j'en recevais un courrier, on nous demande beaucoup d'informations là-dessus.
On va le dire d'ailleurs, c'est important pour nos auditeurs, vous créez donc une association, l'association O, tout simplement, qui va démarrer officiellement le 13 février prochain.
Oui, c'est ça, nous créons une association pour fédérer les communes qui sont déjà en gestion publique de l'eau, pour aider les communes qui veulent revenir ou celles qui veulent renégocier leur contrat, parce qu'on est face à des structures, vous le disiez ce matin, des structures énormes qui ont beaucoup d'argent, qui mettent des pressions énormes. Alors la pression, c'est pas la pression de « on met un pistolet devant la tempe », c'est de partout en disant « vous n'allez pas pouvoir le gérer, monsieur le maire, le moindre truc, mais vous ne le saurez pas, vous allez avoir des employés communaux, mais ils vont se mettre en grève, et voilà, il y a quelqu'un qui manque ». Voilà, ce sont des arguments qui ne sont pas du tout valables.
Michel Partage, on est obligé de vous interrompre parce que le temps presse. Marc Renaud, juste répondre alors rapidement à Michel Partage. La preuve est concrète.
Incontestable.
Vous disiez tout à l'heure, c'est faux, les prix sont, c'est pas moins cher quand c'est public.
Bon, je vous ai pas dit que c'était faux, monsieur. Je vous ai dit que sur 27 communes, il y en avait effectivement 8 qui avaient baissé leur prix. Je suppose que je sais que Varage en fait partie. Donc, très bien, monsieur le maire. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Encore une fois, c'est son choix. Si en plus il le fait bien pour ses habitants, nous n'avons rien à redire. La seule remarque que je veux faire, monsieur le maire l'a dit, c'est que Varage, c'est 1000 habitants. La France, c'est 60 millions d'habitants. Donc moi, je suis désolé, mais je pense qu'il faut dégonfler un peu la baudruche. On est en train de parler ici d'exception, dont je ne nie absolument pas la réalité. Hein. Je la respecte complètement. La perfection n'est pas de ce monde. Mais quand même,
est défectueux sur une petite commune de 1000 habitants, dans une grande commune.
Si vous aviez la gentillesse de me laisser finir, puisque je vous m'avais demandé une réponse courte, je pense qu'aujourd'hui, il y a malheureusement, probablement, de la part des entreprises de l'eau, comme de la part de toutes les entreprises, des points d'imperfection. Ça, je ne vais pas le nier, ce serait idiot. Par contre, ce que je peux vous répéter, c'est que les niveaux de satisfaction généraux qui font plus de 90% de personnes satisfaites du service public de l'eau en France, qu'ils soient en régie ou délégués, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Et qui reste. C'est parce qu'il sort du courrier des auditeurs, là, des mails qu'on reçoit, etc.
Eh bien, vos auditeurs, je pense que c'est les 10% qui se mobilisent, et j'entends parfaitement tout ce qu'ils disent. Il y a sans doute des tas d'enseignements à en tirer, mais n'en faisons pas une généralité, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soit rendre service au service public de l'eau.
Juste un petit mot concernant 11 sociétés en France qui gèrent d'ailleurs des grandes villes et des grandes régions comme la Martinique, comme Marseille, comme Lille, qui sont contrôlées à 50-50 par la Lyonnaise et la Générale. Donc au niveau concurrence, on peut mieux faire. Sur le plan de villes de droite, parce qu'on a parlé beaucoup de villes de gauche, ce sont des villes de gauche qui sont passées en régie, il y en a deux qui sont significatives. C'est à la fois la ville de Castres, malgré des tentatives, alors c'est pas Veolia, c'est Suez, pour essayer que cette ville ne sorte pas, la mairie de Castres, UMP, est revenu en régie avec une baisse du 20% de prix de l'eau. L'autre commune, c'est une petite commune un peu plus importante que Varage, c'est Venelle, à côté d'Aix-en-Provence. Et bien là aussi, le maire de droite est revenu en régie. Donc il y a plein d'exemples, et c'est vrai que c'est très petit en nombre, mais il y a un enjeu formidable à la veille des élections municipales pour que l'ensemble des élus, enfin, devant toutes les statistiques qui montrent que c'est moins cher en régie, que c'est moins opaque et que c'est l'eau, c'est pas un bien de consommation courant, il faut absolument que cette gestion soit écartée.
Revient,
et la nationalisation
Michel
Partage, est une des solutions.
Rapidement, et Pierre Victoria conclura. Michel Partage, vous voulez répondre?
Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il faut arrêter de parler du prix de l'eau. Parce que si on parle du prix de l'eau, ça veut dire qu'on considère que l'eau est une marchandise et qu'elle peut se vendre. Et nous, on est contre le fait que l'eau...
Il y a une facture pour les usagers. Hein.
Il faut dire que c'est le prix de la gestion de l'eau. Quand on paye la gestion, on ne paye pas l'eau. L'eau sort gratuitement des sources. Donc il faut faire attention de bien préciser le prix de la gestion.
L'eau est un bien commun. Pierre Victoria.
C'est pas une marchandise et donc on ne peut pas parler du prix de l'eau.
Merci,
je suis d'accord avec M. Partage sur ce point-là. bas. Par contre, il y a deux choses, quitte à être un peu incorrect, que je voudrais dire. Premièrement, c'est qu'un prix bas n'est pas nécessairement...
Soyons
incorrects un petit peu. Premièrement, un prix bas n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le prix n'a de sens que par rapport à la performance que vous donnez. Quelle est la qualité de votre service? Quel est le respect que vous avez des normes? Et surtout, est-ce que vous êtes capable d'assumer aujourd'hui les efforts en matière d'investissement qui s'imposent, ou est-ce que sous prétexte que les usines et les réseaux, ça ne fait pas beaucoup d'électeurs, on va reporter sur les générations futures un certain nombre d'investissements. On a parlé tout à l'heure d'éventuellement de surfacturation dont on parlait que choisir. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup aussi de collectivités où il y a une sous-facturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas les travaux nécessaires pour entretenir, renouveler et faire en sorte qu'on ait à terme...
Ah ben vous l'avouez alors, on ne fait pas les travaux nécessaires.
La deuxième chose, non mais en l'occurrence, c'est plus aux régies que je pense.
Ça sera l'occasion d'en reparler dans une autre émission de service public.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne crois pas que le prix de l'eau va diminuer dans l'avenir, quel que soit le mode de gestion.
Bah, ça, personne ne
le
croit,
effectivement. Pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que les consommations baissent, et que les consommations baissent, il va falloir continuer à financer les investissements. Et deuxièmement, parce qu'il faut reconquérir le bon état écologique des eaux.
Il y a des investissements très lourds à faire.
Merci à nos invités, on y reviendra dans une autre émission. Et je voudrais quand même rappeler le titre de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, L'eau des multinationales aux éditions Fayard, signé Roger Langlais et Jean-Luc Touly. Merci à nos invités.